pas trop fort ni trop faiblement ici. Voilà, donc je commence à me présenter. Oui, donc je m'appelle Éric Gady, j'ai été professeur d'histoire-géographie dans différentes académies, dont l'Académie de Dijon. Et puis depuis une dizaine d'années, en fait, je n'ai plus d'élèves. J'ai d'abord été délégué académique à l'éducation artistique et culturelle pour l'Académie de Dijon. Et maintenant, je le suis pour les deux académies de Dijon et de Besançon. C'est-à-dire qu'en fait, je suis responsable de tout ce qui est artistique et culturel dans l'Académie pour les élèves du premier et du second degré, des deux académies de Dijon et de Besançon. Alors pourquoi est-ce que je suis ici? Peut-être aussi parce que il y a déjà presque une vingtaine d'années, j'ai préparé une thèse de diplomatie culturelle à Paris 4 sur la présence des égyptologues français en Égypte, de l'époque de Mariette jusqu'à la crise de Suez, jusqu'à 1956. L'idée était de montrer le poids politique de la présence de ces scientifiques en Égypte pendant un siècle, puisque la France a dirigé le service des antiquités de l'Égypte jusqu'à 1956 et a passé beaucoup de temps à essayer de défendre cet héritage scientifique. Évidemment, l'époque que je vais évoquer avec vous, je ne vous parlerai pas d'égyptologue parce qu'il n'y en a pas. On est avant Champollion. Champollion est le premier à mériter le titre d'égyptologue. Mais c'est vrai que la description de l'Égypte et l'expédition de Bonaparte ont une résonance politique au XIXe et au XXe siècle considérable. C'est-à-dire, c'est tout simplement ce qui a justifié la présence des égyptologues français en Égypte pour travailler, mais aussi pour contrôler l'administration égyptienne du service des antiquités de l'Égypte. Voilà. C'est-à-dire que ce que je vais vous présenter aujourd'hui a servi entre 1850 et 1950 a permis à légitimer le fait que les Français dirigeaient une administration égyptienne quelque part. Le Bonaparte et puis aussi Champollion, bien sûr, et la fondation de ce service par Auguste Mariette. Alors, mon propos aujourd'hui, et je vais peut-être y venir quand même aussi, c'est cette expédition de Bonaparte et la description de l'Égypte. J'ai appelé ça « Défaite et victoire de Bonaparte en Égypte » parce que, aujourd'hui, on considère souvent que l'expédition de Bonaparte est une victoire, c'est vrai. Il faut peut-être que je l'éloigne un peu. Oui. Merci. On va essayer de voir que, militairement parlant, c'est quand même une sacrée défaite, hein, puisque au bout de 3 ans, toute l'armée française rentre en France. Mais il y a une véritable victoire politique, une victoire scientifique, quelque part. C'est l'armée des savants qui a travaillé pendant ces 3 ans et qui va publier un ouvrage absolument considérable, unique, qui s'appelle « La description de l'Égypte ». Alors, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, déjà de vous en parler, puis ensuite de vous le montrer un petit peu plus. Voilà, on espère que le passage... Parce que moi, j'ai les images sur cet ordinateur-là, mais il est difficile, on n'arrive pas à le faire passer sur l'autre ordinateur. Il y a quand même des choses à voir, à dire et à présenter. Alors, je vais commencer, puis si on arrive à avoir l'autre ordinateur et si la clé est bien compatible, vous aurez également le son et l'image qui vont avec. Voilà. Alors, première chose, c'est peut-être d'évoquer la cause. Pourquoi est-ce qu'on retrouve un général français en Égypte en 1798 ? Il faut bien comprendre que au moment de la Révolution française, l'Égypte est un pays en fait totalement inconnu des Européens. C'est un pays qui est peu ouvert. Les Français, les Européens de manière générale, y sont allés jusqu'au Caire, c'est vrai, mais dès qu'il s'agit de remonter un peu la vallée du Nil, il n'y a rien. Alors, il y a bien quelques ouvrages, j'aurais pu vous en montrer, avec notamment quelques vues de l'Égypte et notamment des pyramides. Mais si on regarde ces illustrations sur les pyramides au XVIIIe siècle, en fait, on s'aperçoit que ces pyramides sont gravées comme des aiguilles et pas du tout comme une forme pyramidale, tout simplement parce que les dessinateurs n'y sont jamais allés. Et on se raconte de siècle en siècle ce qu'on a vu, et donc on imagine que ça ressemble à des pyramides, ces aiguilles-là. Donc c'est assez curieux. Il y a tout de même des voyageurs qui, au 19e, ont parlé de l'Égypte. Alors il y en a un, Claude Savary, Lettre sur l'Égypte, en 1785. Cet ouvrage a beaucoup marqué ses contemporains, et notamment les Français. Il y décrit une Égypte tout à fait rêvée, à l'image, par exemple, de deux jeunes villageoises qui se baignent nues dans le Nil. Voilà, il suggère que si on allait à la conquête de cette Égypte, on trouverait beaucoup de richesses et autres, et ça donne, ce livre a du succès, hein, ça donne l'envie aux Européens d'y aller. Un autre ouvrage également, Voyage en Syrie et en Égypte, 1787, vous voyez, on est quand même à la veille de la Révolution. Lui, il critique un peu la vision idéaliste de Savary, mais il explique qu'il faut que les Européens prennent le contrôle de l'Égypte quelque part pour sauver ce pays. Il écrit « Ce pays doit, je cite, passer en d'autres mains, ne serait-ce que pour sauver et déchiffrer les vestiges d'une immense richesse ». À chaque fois, on espère bien trouver de la richesse. Là-bas, ça peut toujours être utile. Mais en fait, ce ne sont pas ces deux auteurs français qui sont les inventeurs du projet de conquête de l'Égypte. Ce projet, il est très très ancien. Il remonte à l'époque de Louis XIV, au philosophe Leibniz, en 1675. Il a publié un mémoire, « Mémoire sur la conquête de l'Égypte ». Et l'idée, c'est que ces Européens essayent de s'emparer de cette Égypte. Donc il y a déjà quelques racines un petit peu plus anciennes, bien sûr. On imagine que l'Égypte est un pays aussi facile à conquérir. En février 1798, le consul de France en Égypte écrit directement au directoire « La conquête de l'Égypte n'offre que des avantages, elle ne présente aucun inconvénient aussi. » Donc c'est encore plus facile pour y aller. Alors pourquoi est-ce que la France cherche à s'en emparer? Dans un but colonisateur sans doute, posséder une terre riche, c'est la richesse ici. À la demande aussi de ses résidents, il y a quelques Français qui y résident, effectivement, alors très peu nombreux, les recensements notent 29 Français au Caire à cette époque, 18 à Alexandrie, c'est pas énorme, mais ils se plaignent régulièrement d'être maltraités par les Mamelouks, ils adressent, en 1793, ils ont adressé une supplique à l'Assemblée constituante pour qu'on les aide. La véritable raison, elle n'est pas du tout pour venir en aide de ces quelques Français. Il s'agit évidemment de menacer la route des Indes britanniques qui passe par l'Égypte, puisqu'on est en guerre avec, plutôt contre l'Angleterre. Et on espère qu'en lui coupant cette route, on va la désorganiser, la gêner. Il y a un intérêt évidemment stratégique de contrôler l'Égypte pour empêcher, rendre plus difficiles les relations Angleterre-Inde. Alors pour cela, deux hommes vont reprendre ce projet qui est un petit peu vieux, puisqu'il remonte pour le plus ancien, c'est à l'époque de Louis XIV. Alors le premier, c'est Talleyrand, bien sûr, qui est ministre des Relations extérieures, étrangères, du directoire, depuis juillet 1797. Lui, il a un projet. La France a perdu ses colonies d'Amérique, au XVIIIe siècle, et il se dit, tiens, on pourrait remplacer ces colonies par des colonies en Orient aussi, en s'emparant, pourquoi pas, de cette Égypte. Il adresse donc, en février 1798, une demande au directoire, et il rajoute quelques phrases destinées aussi à flatter un petit peu l'orgueil national. Il écrit « L'Égypte fut une province de la République romaine, il faut qu'elle devienne de la République française ». La conquête des Romains fut l'époque de la décadence de ce beau pays. La conquête des Français sera celle de sa prospérité. Donc, encore l'idée de retrouver une certaine richesse. Le second personnage qui est attiré par l'Orient, c'est un jeune militaire, c'est évidemment ce général Bonaparte, qui a beaucoup lu dans son enfance, beaucoup lu d'ouvrages sur l'Égypte, l'Orient, les Arabes. Il a lu Voltaire aussi. Pour lui, l'Égypte, c'est le pays des conquérants. c'est le pays d'Alexandre qui a fait sa conquête il y a fort longtemps, c'est le pays de César, et par définition ce sera bientôt le pays de Bonaparte lui-même aussi. Il est à la recherche de la gloire. En 1797, encore en Italie, hein, il se fait livrer toutes les cartes, les mémoires, les livres sur l'Égypte, et il écrit au directoire « Les temps ne sont pas éloignés où nous sentirons que pour détruire véritablement l'Angleterre, il faut nous emparer de l'Égypte ». Voilà. Donc, Talleyrand et Bonaparte vont s'entendre assez rapidement, très très rapidement, parce que vous voyez que j'ai parlé début 1798, 6 mois après, ils sont déjà en Égypte. Hein. C'est quand même assez, assez conséquent. Les préparatifs vont être très 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 rapides, notamment grâce à l'organisation de Bonaparte, qui s'occupe de tout avec une activité débordante, le tout dans le plus grand secret. Alors, pour monter cette expédition, la première chose dont ils ont besoin, c'est d'argent, bien sûr, parce qu'on va envoyer beaucoup de personnes. Alors, ça tombe bien, la France a annexé la Suisse, on va donc se servir dans le trésor de Berne. Voilà, on va imposer un emprunt à la République Ligure aussi, et puis on va même remercier le pape d'une contribution, entre guillemets, spontanée pour financer cette expédition. Donc, pas de souci, il y a de l'argent à cette époque dans cette République française qui a bien conquis déjà une partie de l'Europe. La deuxième chose, il lui faut des troupes. Pas de problème, il va se servir parmi les troupes de l'armée d'Italie et l'armée d'Allemagne, ici, puis il va choisir quelques-uns des meilleurs généraux, hein, Kléber, Desaix, Berthier par exemple, pas de difficulté. Mais il lui faut quelque chose de plus à Bonaparte, et c'est ça qui fait de cette expédition d'Égypte un élément tout à fait particulier, une expédition qui n'a pas d'équivalent dans les autres expéditions militaires. En fait, il veut se démarquer de tous les autres généraux et il est attiré par tout ce qui est scientifique. Il a une curiosité qui est réelle, plutôt en autodidacte, hein, bien sûr. En Italie, il a rencontré Monge, par exemple, et Berthollet, les deux grands chimistes, qui étaient chargés de recenser les œuvres d'art, membres de l'Institut, et il les a invités à sa table. Le courant est très bien passé, à tel point que Monge et Berthollet vont le faire entrer à l'Institut, c'est-à-dire que Bonaparte sera un des académiciens, alors dans la classe des physiques et mathématiques, mais c'est vrai qu'il y avait peu de généraux à cette époque à l'Institut, et ici on voit déjà, avant même l'expédition d'Égypte, les relations... Je ne veux pas dire la collusion, mais comment est-ce que Bonaparte veut ne pas être un simple militaire, mais vraiment apparaître également comme un protecteur des sciences et même un homme de science lui-même en tant que membre de l'Institut. Et il a été élu, donc c'était le 25 décembre 1797 à la place de Cardot. Il en est très très fier ici, il suit les séances, il va même proposer de faire des communications. Ici, et du coup il va rajouter à son armée tout simplement ce qu'il appelle une commission des sciences et des arts, présidée tout de même par un général, hein, bien sûr, et cette commission, elle va être composée d'un certain nombre de savants que Bonaparte a invités. Alors, les deux plus grands savants de l'Institut, Monge et Berthollet, vont accepter d'en faire partie. Accepter de faire partie de cette commission, ça veut dire accepter d'aller en Égypte. Ce qui, en 1798, c'est quand même une expédition militaire aussi. Monge et Berthollet ne sont pas... Ils ne sont pas vieux, mais ils ne sont pas tout jeunes, surtout à l'époque, hein, un peu moins qu'aujourd'hui. On savait quand on partait, mais on ne savait pas forcément quand on reviendrait aussi. Et puis, Monge et Berthollet vont recruter un très grand nombre de savants, et parmi les meilleurs, hein, le géologue Dolomieu, l'inventeur Nicolas Conté, qui sera présent partout, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, le naturaliste, et puis plein d'autres, il y en a 165, je ne vais pas les citer tous. Alors, Bonaparte avait été allé un peu vite en disant « Nous aurons avec nous un tiers de l'Institut, des académiciens ici de l'Institut de France ». En fait, tout le monde n'a pas voulu faire comme Monge et Berthollet et y aller. Et du coup, on s'est rabattu vers les étudiants, vers les élèves de la très jeune école polytechnique, hein, puisque à défaut de prendre les professeurs, prenons les étudiants. D'où l'école polytechnique va renvoyer 45 étudiants, quelques professeurs, surtout des étudiants, sur les 160, c'est beaucoup. Et du coup, ils sont très très jeunes. La moyenne de cette, ce qu'on appelle l'armée des savants, quelque part, ils ne sont pas militaires, mais voilà, c'est de 25 ans. Certains ont moins de 20 ans. Les deux plus jeunes ont 17 et 15 ans aussi. Ils sont considérés comme des savants, bien sûr, des étudiants ici. Ils ont peu d'années, mais un enthousiasme débordant. L'un d'eux a raconté plus tard, nous ignorions où Bonaparte allait porter nos pas. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, quand ils prennent le bateau, personne ne sait où va aller le bateau. Hein. Le but est tenu secret, puisque c'est aussi une expédition militaire. Et que les Anglais se doutaient un peu que c'était quand même l'Égypte, mais on n'avait rien dit. Voilà. Nous ignorions où Bonaparte allait porter nos pas, mais que nous importait ? Ce guerrier inspirait alors un noble enthousiasme, une aveugle confiance. Monge, Bertholet, Caffarelli, Dolomieu l'accompagnaient et voulaient bien nous associer à leurs travaux. Pouvions-nous exister un instant ? Eh bien, les jeunes, non. Donc, 167, alors, le nombre est toujours un peu discuté, est-ce que c'est 165, 167, bon, peu importe, hein, mais on y trouve beaucoup de savants différents, des mathématiciens, des astronomes, des architectes, économistes, antiquaires, antiquaires c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui archéologues, plutôt dessinateurs, graveurs, sculpteurs, orientalistes, minéralogistes, beaucoup, beaucoup d'ingénieurs, notamment ingénieurs géographes, ingénieurs du génie maritime, ingénieurs des ponts et chaussées, ils vont tout calculer en Égypte, c'est leur métier aussi, c'est leur formation. Voilà. Donc, on a trouvé les soldats, on a trouvé les scientifiques, il ne reste plus que le matériel. Alors, les navires, on va les réquisitionner dans les ports de la Méditerranée, hein. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a près de 300 quand même, ici. Le matériel scientifique, indispensable aux savants, on a fait acheter, puis quand on ne trouvait pas, on a fait saisir hein, des bibliothèques, donc on a importé plus de 500 livres, un cabinet de physique entier, un cabinet de chimie, celui de l'école polytechnique, de toute façon il n'y a plus d'étudiants, donc autant apporter tout le matériel en Égypte, l'équipement topographique, une horloge, une lunette astronomique, un piano Érard aussi, tout le matériel pour fabriquer des montgolfières, il s'agit d'impressionner les Égyptiens. Et puis un matériel d'imprimerie aussi, c'est la première presse d'imprimerie qui arrivera en Afrique, celle que les Français vont apporter. Voilà. Le bilan chiffré, c'est donc un commandant en chef hein, qui a 29 ans, 9 généraux, 35 ans aussi, quand même jeune, 48 662 hommes, c'est gigantesque hein, également. Je passe sur les 1200 chevaux, les paires de bœufs qui doivent traîner tirer plutôt les canons, sans compter les volailles, les moutons, les bœufs pour la consommation ordinaire. À côté des 280 navires, il y a quand même les 12 vaisseaux de guerre, il s'agit de protéger toute l'armada. 172 pièces d'artillerie, il faut se défendre. 16 000 paires de souliers, il faut équiper, voilà. Pire encore, 10 000 paires de bas, parce qu'on pense aussi à comment on sera dans le désert égyptien, sans doute. 930 000 litres de vin, mais les meilleurs, la réserve du patron, ce sont les 4 800 bouteilles de Bourgogne, bien sûr, vous voyez. On n'oublie pas aussi 120 000 pintes, alors j'avoue, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une pinte, mais ça doit représenter pas mal de choses, d'eau de vie aussi, sans doute pour le domaine médical ou autre ici. Au total, sur les 50 000 personnes qu'on envoie, c'est 1,5 tonnes de matériel par personne. C'est gigantesque. Tout ceci en 3 mois. Tout ceci a été réuni, mis sur pied en 3 mois. Honnêtement, si aujourd'hui l'armée française devait emmener 50 000 soldats sur un théâtre d'opération extérieure, est-ce qu'elle pourrait le faire en 3 mois ? C'est pas aussi évident. Et dans le plus grand secret. La seule chose, c'est que tout le monde a rendez-vous à Toulon, sans qu'on ait rien dit, bien sûr. Les Anglais aussi ont rendez-vous à Toulon. Hein. Ils ont chargé le contre-amiral Nelson de détruire cette flotte en Méditerranée. Donc Nelson, par exemple, est venu le 9 mars 1998 à Toulon. Il a vu qu'il n'y avait rien du tout. La flotte française est partie de Toulon le 19 mars. Le 20 mars, Nelson est à nouveau devant Toulon. Il voit qu'il n'y a personne aussi. C'est assez extraordinaire, mais en quelques semaines, les deux flottes vont passer leur temps à se croiser sans se voir. On sait que même une nuit, au large de Malte, ils se sont croisés, mais... On nous dit qu'il y avait de la brume, beaucoup de brume ce jour-là, mais ils se sont croisés avec 300 bateaux, ça devait quand même se voir. Enfin, on peut imaginer, je ne sais pas. Mais en tout cas, personne n'a vu que l'autre était juste là. Ça, ça fait partie de la chance assez extraordinaire de Bonaparte, hein, pas que pour l'expédition de l'Égypte, mais pour tout. C'est quelqu'un qui a la chance avec lui. Et ben là, il en avait besoin, parce qu'effectivement, s'il avait rencontré la flotte britannique en Méditerranée, peut-être les choses se seraient mal passées. Vous verrez qu'elles se sont mal passées de toute façon, mais après le débarquement ici. Voilà. Donc, les Français vont tout de même partir, avancer. On a pris soin de répartir les savants dans différents bateaux et pas de les mettre ensemble. Parce qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas confier la science au sort d'un seul navire, si jamais il y avait un naufrage ou autre. Voilà. Donc, on voit quand même que les scientifiques ont un statut peut-être plus important que les autres militaires, si l'on peut dire ici. Les conditions de traversée, je passe, mais sont pas très très bonnes aussi. C'est difficile, mais c'est pas grave, on y croit. Et puis à peu près au milieu du voyage, Bonaparte va finalement révéler à ses 50 000 hommes la destination du voyage, c'est-à-dire l'Égypte. Ça va bien, de toute façon ils sont partis pour aller n'importe où, donc l'Égypte, ça convient à tout le monde. En juin, le 9 juin, on voit l'île de Malte, on en profite pour s'en emparer, ça peut toujours être utile, ça se passe avec quelques coups de canon, mais assez bien. Et puis c'est dans la nuit du 23 au 24 juin que les deux flottes se frôlent, hein, personne ne se voit. Donc du coup, 4 jours plus tard, Nelson va plus vite parce qu'il a moins de bateaux. Et le 28, il est à Alexandrie. Comme il voit personne, il repart. Et le 30, les Français arrivent à Alexandrie avec 2 jours de retard parce que ça leur prend plus de temps, bien sûr. Et comme ils voient personne, bah, eux, ils débarquent aussi. Bref, nous sommes donc à la fin juin 1798. Nos 50 000 hommes débarquent à Alexandrie. Pour les Alexandrins, déjà, c'est une surprise totale. Ils ne s'attendaient pas forcément à voir des Français débarquer ici. Alors, il ne faut pas s'imaginer du tout Alexandrie comme ce que vous pourriez croire et ce que les Français pensaient qu'Alexandrie allait être. Alexandrie, en 1798, c'est un village. Il y a 5 à 6 000 habitants, c'est tout. Et la gloire d'Alexandrie, de Cléopâtre et des Ptolémées, il y a très longtemps qu'elle est sous les sables aussi. Donc, c'est un village de pêcheurs et rien d'autre également. Du coup, prendre Alexandrie, c'est très simple, hein. Quelques coups de canon, voilà. Bon, les Français, quand même un petit peu excités, n'oublient pas de se livrer à un véritable carnage. Hein. Un des officiers écrit « Hommes, femmes, vieillards, enfants, tout fut massacré ici ». Et c'est ce qu'on oublie un peu de l'expédition de Bonaparte, c'est qu'elle est sanglante. Je vous parlerai des officiers, c'est vrai, du travail des scientifiques, ok, mais cette expédition, elle l'a laissé dans la mémoire des Égyptiens aussi, des souvenirs qui ne sont pas très positifs de ce côté-là. Bien. Cela dit, Bonaparte a quand même une certaine habileté, c'est celle de se présenter comme, aux yeux des Égyptiens, comme s'il venait les délivrer. Alors, les délivrer de qui donc ? Eh bien, ça tombe bien, des Mamelouks qui occupent le pays déjà depuis plusieurs siècles. Et c'est ce qu'il leur dit, et partout il va passer pour là. Et il va très vite, effectivement, chasser les Mamelouks d'Égypte, bien sûr, ici. Cela dit, le premier contact avec l'Égypte, c'est quand même une sacrée déception hein, pour toute l'expédition, pour une raison très simple, c'est que d'abord il fait très chaud, on est en juillet, et Alexandrie en juillet, enfin, en Égypte, ce n'est pas la meilleure saison, enfin, ça dépend ce qu'on cherche, mais voilà. Surtout, on s'attendait à voir les palais de Cléopâtre, et puis on voit un village de pêcheurs et rien d'autre. On se demande où sont passées les richesses, surtout les soldats qui sont venus pour aussi se dire, bah, tiens, on pourrait rapporter des choses et autres. Bref, on ne trouve rien du tout. N'oubliez pas qu'Alexandrie, c'est 6 000 personnes, 5-6 000 habitants, 50 000 personnes qui arrivent là, il faut aussi arriver à faire vivre tout le monde. Alors, on a beau avoir emporté beaucoup de provisions, mais si on reste longtemps, il faut aller ailleurs. C'est la raison pour laquelle on va très vite oublier Alexandrie. Je cite ici l'un de ces savants qui a écrit plus tard « Combien de fois avons-nous maudit les trompeuses descriptions de l'auteur des lettres sur l'Égypte ?» Savary, donc. « Notre imagination exaltée par les souvenirs de l'histoire nous représentait dans chaque Égyptienne tous les attraits et les charmes de Cléopâtre. » Et finalement, la déception est bien là. aussi. Donc, puisque Alexandrie ne peut pas faire vivre l'armée, la seule chose désormais, tout simplement, c'est de partir et d'aller au Caire. Bien évidemment, il faut faire la conquête du pays. La conquête du pays, elle passe par le Caire. Alors, on va tout de même, les savants vont rester un petit peu à Alexandrie. Ils vont commencer par faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire mesurer. À chaque fois qu'un ingénieur arrive quelque part à un endroit où il ne connaît pas, il mesure ici, il prend des notes. Et par exemple, on va mesurer la colonne de Pompée à Alexandrie, parce qu'elle, elle est toujours là, bien sûr. Et alors, ça donne lieu à quelques illustrations intéressantes pour la mesurer, par exemple. Et on va toujours faire preuve de génie. On va essayer de trouver un cerveau volant qu'on va faire arriver en haut de la colonne, et puis on va mesurer combien de mètres ça fait, etc. Voilà, les savants vont commencer à s'amuser un tout petit peu. Alors, nos armées s'approchent du Caire, bien sûr. Le moment de la confrontation avec l'armée des Mamelouks qui protège de la ville est bien là. La bataille, vous le savez, elle a lieu devant les pyramides, enfin, pas très loin des pyramides, à 13 kilomètres de là, ici, elle a lieu dans un petit village qui s'appelle Imbaba, mais bataille d'Imbaba, c'était pas porteur pour quelqu'un comme Bonaparte, donc bataille des pyramides, c'était tout de même un petit peu mieux pour l'histoire, d'où le fait qu'on va très vite rebaptiser ce nom bataille des pyramides, ce qui va permettre de rehausser le prestige du vainqueur. Et puis, alors il y a une phrase que vous connaissez tous, soldats, 40 siècles vous contemplent du haut de ces pyramides. Alors si vous regardez les récits de tous les témoins qui étaient présents à chaque fois, la phrase est toujours dite de manière différente. Et puis, en fait, on doute énormément que Bonaparte ait prononcé cette phrase-là, mais ce n'est pas grave. Ça permettait de donner à cette bataille un théâtre d'opération à la gloire d'Alexandre ou de César, et Bonaparte devenait un nouveau César, tout simplement. La bataille n'est pas si facile que ça non plus. Les Mamelouks sont 90 000, les Français sont 20 000 aussi, mais ils ont commis l'erreur de diviser leurs troupes, d'en mettre la moitié de l'autre côté du Nil alors que les Français ne l'ont pas traversé. Et résultat, au bout de quelques heures de charge, les troupes des Mamelouks vont prendre peur et vont se noyer dans le Nil, tout simplement. Les deux chefs Mamelouks se divisent et Bonaparte enverra un corps expéditionnaire pour aller chasser le dernier chef Mamelouk jusqu'en Haute-Égypte, mais en fait c'est la fin du pouvoir des Mamelouks sur l'Égypte. Bonaparte entre au Caire. Et le général Berthier écrit « Jamais victoire aussi importante ne coûta moins de sang aux Français. » On estime qu'il y a eu 10 morts côté Français, beaucoup plus côté Mamelouk. Donc c'est une victoire qui permet à Bonaparte de contrôler tout simplement l'Égypte, le pays. Là, au Caire, tout de même, on trouve une situation meilleure qu'à Alexandrie, d'abord parce que la ville est beaucoup plus grande, que les Mamelouks qui ont bâti des palais que l'on peut occuper, puisqu'ils ne sont plus là, et il y a quand même un peu plus de ravitaillement, bien sûr. C'est un choc aussi pour les Français. La ville est grande, on y trouve plus de 200 mosquées, mais les Français sont, les descriptions qu'ils vont en faire aussi sont quand même souvent péjoratives, ces descriptions, pardon. Un des savants écrit « C'est une vilasse immense, misérable et dégoûtante ». Un autre écrit « Un grand boyau rempli de maisons entassées les unes sur les autres, sans ordre, sans distribution, sans méthode ». Voilà, on décrit les habitants des Caïrotes, donc comme des hommes aveugles, bornes, barbus, couverts de guenilles, pressés dans la rue ou assis la pipe à la bouche, comme singes à la porte d'une tanière. Le choc culturel est là, évidemment, entre les deux. Comme à son habitude, on fait confiance à Bonaparte pour prendre les choses en main très très vite, réorganiser en quelques jours l'administration du pays. On va mettre quelques notables qui vont prêter serment de ne rien entreprendre contre les intérêts de l'armée, mais en fait, les Français, évidemment, vont très vite contrôler tout, tout ceci. Voilà. Tout irait très très bien si ce fameux Nelson avait fini par se rendre compte que les Français avaient bien débarqué en Égypte et étaient revenus sur les ports égyptiens. Alors, c'est pas à Alexandrie, mais pas très loin à Alexandrie, à Aboukir, qu'il va trouver la flotte française qui mouille dans un port, ici. Et le 1er août, tout simplement, Nelson va s'attaquer à cette flotte. Il n'y a plus beaucoup de soldats, il y en a quand même un certain nombre, mais elle est complètement dans le port. Voilà. Le résultat, il est très simple, c'est ce qu'on appelle la défaite d'Aboukir. La flotte française à Aboukir est coulée par la flotte britannique. Alors certes, les soldats ne sont pas là, tout le matériel des savants a déjà été débarqué. De ce côté-là, il n'y a aucun problème, mais c'est une sacrée défaite militaire, déjà symbolique. Le vaisseau amiral Lorient a explosé sous les coups des canons britanniques, bien sûr. L'amiral qui commandait la flotte est courageusement est mort sur ce bateau Lorient. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Enfin, on estime qu'il y a 1700 Français qui sont morts ceux qui gardaient cette flotte aussi. Et le problème, c'est que Bonaparte est prisonnier. Il est prisonnier de quoi ? De sa conquête. Parce que les soldats français ne peuvent plus repartir en France s'ils le veulent. Aussi. Alors, vous êtes victorieux en Égypte, ok, mais condamné à rester en Égypte tant que les Britanniques restent maîtres des mers, ce qu'ils sont de toute façon par tout temps aussi. Voilà. La situation n'est pas si simple parce que les Égyptiens apprennent aussi assez vite que les Français ne peuvent pas repartir, que ce sont les Britanniques qui contrôlent les mers. Le mécontentement des Égyptiens est réel et très très vite, la population au Caire va se révolter dès le mois d'octobre 1798, c'est-à-dire de 3 mois à peine après la conquête. La réaction, c'est tout simplement la force brutale des Français pour réprimer. Hein. C'est beaucoup de morts. On estime à 250 le nombre de morts français, mais 10 à 20 fois plus côté égyptien. Le général Berthier écrit lui-même « Nous avons fait un terrible massacre de ces scélérats ». Aussi. Et là encore, ça va rester dans les souvenirs des Égyptiens, encore aujourd'hui, cette question. Un Égyptien, Djabarty, celui qui a laissé un récit de la présence des Français en Égypte, alors parfois il est assez admiratif dans son récit, notamment quand il décrit les scientifiques, tout ce qu'ils apportent, parce que les scientifiques vont ouvrir leur bibliothèque, par exemple, à ces Égyptiens, et il va les fréquenter, lui, mais il voit aussi ce qui se passe dans les rues du Caire également. Et il écrit de toute cette entreprise, personne ne retira quelque profit, il n'en sortit que des ruines, des cendres et de la poussière. Quant à Bonaparte, il répond à Berthier qui avait parlé déjà du massacre, il lui répond, vous voudrez bien, citoyen général, donner l'ordre au commandant de la place de faire couper le cou à tous les prisonniers qui ont été pris les armes à la main. Ils seront conduits cette nuit au bord du Nil, leurs cadavres sans tête seront jetés dans la rivière. Voilà. Donc c'est quand même brutal, ici. Ça évite d'autres révoltes aussi. Mais Bonaparte cherche aussi à contrôler le reste du pays. Donc je vous ai dit qu'il envoyait un corps expéditionnaire. C'est pas lui qui va, mais dans le sud du pays pour aller à la poursuite du dernier chef Mamelouk. La victoire sera pour les Français, bien sûr. Et les Français pourront écrire à Philae, très au sud de l'Égypte, une inscription qui est très célèbre où l'armée française est arrivée tel jour du mois de 1799. Bonaparte, quant à lui, craint une double attaque, bien évidemment. D'un côté, l'autre chef Mamelouk qui est parti en Syrie, et puis pourquoi pas les Britanniques qui pourraient éventuellement redébarquer à nouveau en Égypte, puisque ils sont désormais maîtres des mers. Alors pour la Syrie, eh bien c'est Bonaparte qui va aller en direction de la Syrie pour à la poursuite de ce deuxième et chef mamelouk. On sait ce que ça a donné, hein, la prise de Jaffa, ici, et puis à nouveau une véritable boucherie côté français. Hein, les soldats, on nous dit, nos soldats avaient épuisé leurs cartouches, il fallut frapper à la baïonnette et à l'arme blanche. Il se forma, puisqu'il faut le dire, une pyramide effroyable de morts et de mourants dégoûtant le sang. Voilà. Donc là encore, même chose. L'armée française commence à être fatiguée et malade, mais Bonaparte va continuer l'expédition jusqu'à Acre en essayant de s'en emparer. Là, il se rend compte qu'il a de moins en moins de soldats. Son idée, c'était peut-être d'aller jusqu'à l'Inde, hein, à partir de cette Palestine, un petit peu comme Alexandre, qui était allé jusqu'à l'Indus aussi, mais il se rend compte qu'il ne pourra jamais y aller. Il y a la question de la peste aussi, vous savez, à Jaffa. D'ailleurs, il va aller soutenir les pestiférés, les fameux pestiférés de Jaffa, pour montrer que lui, il ne craint pas cette maladie, mais il pense plus prudent de revenir au Caire, tout simplement parce qu'il craint. Alors, le chef mamelouk qui était parti en Syrie, lui, s'en est débarrassé définitivement, mais il y a toujours les Britanniques, et donc il revient au Caire. Il apprend que les Britanniques essayent sans doute de débarquer à nouveau à Aboukir. Eh bien, le 25 juillet 1789, 99, pardon, il se rend à Aboukir pour la seconde bataille, et là, c'est lui qui est victorieux. Certes, il est prisonnier de sa conquête, mais les Britanniques se rendent compte qu'ils ne pourront pas débarquer, ils ne pourront pas s'emparer de l'Égypte. Donc ici, il y a une sorte d'égalité entre les deux. Voilà. Bien, j'ai parlé beaucoup d'aspects militaires. Pendant ce temps-là, les savants ont travaillé. Ils ont travaillé dans un des palais du Caire qui est devenu le siège de ce qu'on va appeler l'Institut d'Égypte. Puisqu'on n'a pas tous les savants de l'Institut de France, eh bien on va former un institut avec 40 savants. Les militaires, Bonaparte sera aussi évidemment membre de cet institut, bien sûr, et tous ces savants vont travailler avec des communications qui vont se faire sur les découvertes, sur des choses très... des questions qui sont posées très régulièrement, par exemple, comment perfectionner la cuisson du pain. Faut-il construire au Caire des moulins à eau ou des moulins à vent, par exemple, ici? Au passage, on va considérer qu'il faut plutôt construire des moulins à eau, et puis très vite, on va se rendre compte qu'il faut plutôt construire des moulins à vent, c'est quand même mieux, etc. Donc, nos savants vont travailler. Ils vont pour cela créer un journal pour les Français, ça va être le courrier de l'Égypte, dans lequel on publie les découvertes, et puis un autre, la décade, également. Voilà. Ils vont... faire quelques visites, notamment le plus célèbre, c'est la visite à la Grande Pyramide. Bonaparte n'y est pas monté, mais on sait qu'il était présent, donc on la mesure, bien évidemment. Et puis, leur objectif, c'est d'impressionner les Égyptiens, d'où les fameux ballons qu'on avait emportés. Donc, on essaye de les faire s'élever dans l'air, mais pas de chance ici. À chaque fois, ils retombent, ce que, du coup, impressionne peu les Égyptiens de ce côté-là. Voilà. Parmi ces savants, il y en a un qui va être un peu plus actif que les autres. Vous le connaissez tous, évidemment, c'est Vivant de Nom, bien sûr. Lui, il va obtenir. Il est très très proche quand même de Bonaparte aussi, et du coup, il va avoir une autorisation spéciale dans cette première expédition qui est chargée d'aller poursuivre Ibrahim Bey dans le sud de l'Égypte, le chef mamelouk Ibrahim. Ici, eh bien, Denon a obtenu l'autorisation de l'accompagner, et à ce titre, il est l'un des premiers savants à découvrir, l'un des premiers Européens qui ne soit pas un militaire, à découvrir un petit peu cette vallée du Nil, ces monuments pharaoniques. Qu'on ne connaît pas vraiment. Très très peu de voyageurs se sont aventurés avant le XVIIIe siècle en Haute-Égypte, par exemple. Et il le dit à sa très grande satisfaction. Hein. Il écrit « J'allais défricher, pour ainsi dire, un pays neuf. J'allais voir le premier sans préjugés. J'allais fouler une terre couverte de tout temps du voile du mystère et fermée depuis 2000 ans à tout Européen. Et il n'a pas tort, pour une fois. Ce qu'il écrit, c'est tout à fait exact. Il n'y a pas grand monde qui a vu, et encore moins qui ont rapporté après également. Alors, il dispose avec lui d'une protection armée pour visiter cette haute Égypte. Hein. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une menace ici. Et alors, le problème, c'est que l'armée, elle avance assez vite aussi, et lui, il a très très peu de temps à chaque fois pour prendre des croquis de ses dessins. Il y a une caricature, enfin, c'est une image où on le voit, et c'est ce qu'il fait partout où il va. Hein, il s'installe sur un petit siège ici, et puis il veut tout croquer. Il écrit: le crayon à la main, je passais d'objet en objet, distrait de l'un par l'autre objet, toujours attiré, toujours arraché. Il me manquait des yeux, des mains et une tête assez vaste pour voir, dessiner et mettre quelque ordre à tout ce dont j'étais frappé. J'avais honte des dessins insuffisants que je faisais de choses si sublimes, c'est pas faux. Mais je voulais des souvenirs, des sensations que je venais d'éprouver. Je craignais que Dendera ne m'échappât pour toujours et mes regrets égalaient mes jouissances. Alors c'est vrai que c'est le premier à reconnaître l'importance de Dendera et surtout la beauté de ce temple égyptien. Je vous rappelle qu'à cette époque, la beauté dans l'art antique, c'est l'art grec. L'art égyptien, ce n'est pas un art considéré comme beau. Et la rencontre de deux noms à Dendera, il se rend compte que ça vaut l'art grec. Voilà. Et là, c'est tout son mérite, bien évidemment. D'autres savants vont accompagner les militaires un petit peu partout. Donc là, je n'insiste pas. Vous connaissez sans doute cette gravure qui est assez célèbre. On voit les savants sur le sphinx, par exemple, en train de mesurer avec des échelles. Elle est en général connue ici. C'est ce qu'ils vont faire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les savants ne font aucune fouille archéologique. Ce ne sont pas des archéologues, ce ne sont pas des égyptologues. Ils ne connaissent pas. La seule chose qu'ils font, c'est quand ils voient des monuments, il y en a quand même beaucoup en Égypte, tout n'est pas sous le sable, eh bien, on va les dessiner, on prend des notes, on les décrit, on les mesure, et puis c'est ceci qui va servir à la description de l'Égypte plus tard. La seule découverte archéologique, vous la connaissez, c'est cette pierre de Rosette, qui est découverte totalement par hasard, pas par un savant, par un soldat qui a buté sur cette pierre, et son lieutenant, le lieutenant Bouchard, donc, se rend compte sur cette pierre de Rosette, donc, de la présence de trois écritures différentes, et tout de suite, on se dit que cette pierre, elle pourrait être utile. La partie en grec, on la déchiffre très très vite, hein, bien sûr, enfin, les savants ici, et la fin, c'est un décret, et à la fin, le pharaon indique que ce décret sera traduit en trois langues: l'écriture grecque, l'écriture hiéroglyphique, c'est l'écriture de prestige, et l'écriture démotique, c'est l'écriture de l'époque, la langue de l'époque aussi. Et on se doute que c'est bien les trois états qui sont là, c'est-à-dire que la pierre est apportée quelques semaines plus tard à l'Institut d'Égypte, et les savants se disent, si on arrive à décrypter cette pierre, on arrivera à lire tous les temples égyptiens, par exemple. Donc, la seule question, c'est que ça va prendre un petit peu de temps en plus. Bref, les savants ont travaillé, bien évidemment. Le seul qui est plus pressé encore, c'est Bonaparte, bien sûr. Certes, il a rétabli sa situation avec la deuxième bataille d'Aboukir, bien sûr, mais il se rend bien compte que la route de l'Inde, il y a fait son deuil. L'Égypte, il ne va pas redescendre, il ne va pas aller plus au sud, il ne va pas conquérir l'Afrique, bien sûr, ne serait-ce que parce qu'Alexandre n'y a jamais mis les pieds, César non plus, donc ça ne l'intéresse plus, et il n'a pas envie de s'ennuyer concrètement en Égypte ici. Donc, assez rapidement, il a le projet de partir. Alors, partir, c'est bien, mais partir seul ou partir avec son armée? Comme il n'a pas de bateau, la question est très simple, hein, il va trouver deux bateaux, mais ça veut dire que lui, en gros, et personne d'autre. Dans ses mémoires, il a une formule un petit peu élégante pour justifier son départ. Il écrit « Sa personne », il parle de lui-même, hein, bien sûr, « sa personne était désormais aussi inutile en Orient que nécessaire en Occident. Tout lui annonçait que le moment désigné par le destin était annoncé. » Comme on ne peut pas aller contre le destin, eh bien, il choisit tout simplement, pour parler clairement, d'abandonner son armée. C'est-à-dire de quitter une nuit sans le dire à personne. Alors, y en a quelques-uns qui sont dans la confidence. Un Monge, Berthollet, qui commençait aussi à s'ennuyer, qui voulait bien rentrer, sont avertis et feront partie du voyage. Mais le général Kléber, à qui il va laisser le commandement, lui ne le sait pas. C'est-à-dire que Bonaparte part de nuit, il fuit l'Égypte, hein, ni plus ni moins, il laisse toute son armée là, et le brave général Kléber apprend au petit matin, quand il se réveille, qu'il est le chef de cette armée d'Égypte et que Bonaparte est parti aussi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il est... Alors, dans le texte qu'il écrit à Kléber, il écrit « Les nouvelles d'Europe m'ont décidé à partir pour la France ». Vous voyez, c'est pas que lui s'ennuie, c'est parce qu'il a envie de faire autre chose, bien sûr. Mais voilà, donc ils sont 400 à partir et à abandonner tout le reste. Le général Kléber n'était pas content quand même ce jour-là, quand il a appris qu'il prenait la direction, surtout sans l'avoir prévenu. Et au passage, il laisse un arriéré de 12 millions dans les caisses aussi, que Kléber va devoir retrouver. Et avec une armée, quand elle apprend l'armée que Bonaparte est parti, le moral de l'armée n'est pas au mieux non plus, également. Voilà. D'où le fait que Kléber va commencer déjà à négocier un armistice avec les Britanniques, hein, tout simplement. Alors, cette convention est signée, puis finalement, les Britanniques vont aller un petit peu au-delà de ce qui avait été convenu, donc on va reprendre les armes. Donc, Kléber va être victorieux de la bataille d'Héliopolis, mais il est aussi assassiné par un Égyptien, et c'est un autre général, le général Menou, qui l'emporte, enfin, qui prend la succession, qui, lui, n'est pas vraiment l'homme de la situation. Il est défait dans une bataille contre les Britanniques, et finalement le plus simple, c'est l'humiliation, tout simplement, c'est de signer la convention avec les Britanniques, avec pire, demander aux Britanniques de rapatrier tous les soldats, enfin tous ceux qui restent sur la flotte britannique, puisqu'on n'a pas d'autres bateaux aussi. Donc c'est aller jusqu'au bout de cette humiliation. Donc on va discuter, voilà. On va réécrire à nouveau des conventions. Ce qui est intéressant, c'est l'enjeu scientifique. Les Britanniques vont tout de suite comprendre que les savants, ils ont travaillé et ils aimeraient s'emparer de toutes les notes, de tous les travaux des savants. Plus encore, ils aimeraient s'emparer de tout ce que les Français ont déjà commencé à stocker en termes d'œuvres archéologiques. Parce qu'on a mesuré quelques statues, mais celles qui n'étaient pas trop trop lourdes, on les a emportées au Caire, à l'Institut, puis on espère bien les remporter dans ce Louvre, de toute façon aussi. Et là, il va y avoir une véritable bataille épistolaire entre le général britannique et Menou pour savoir à qui appartiennent ces œuvres. Dans la Convention, il a été indiqué que les Britanniques allaient s'emparer de tout ce qui appartenait à la République. Et évidemment, les œuvres... Les sculptures égyptiennes, elles appartiennent à la République. Mais Menou, n'hésite pas à écrire, dans un grand mensonge, hein, « Je déclare ici, au nom de l'honneur, monsieur le général, il s'adresse au général britannique, qu'en fait de collection, aucune de celles qui existent aussi en petit nombre n'appartient à la République française. Toutes ont été faites aux frais et aux dépens des particuliers. Je ne connais d'autres objets qu'on puisse regarder de la République que deux sarcophages, l'un pris à Alexandrie, l'autre venu du Caire. Sous-entendu, la pierre de Rosette, parce que c'est elle qui est déjà l'enjeu le plus important, elle appartient à un particulier, elle n'appartient pas à la République, donc elle ne doit pas être donnée aux Britanniques. Bon, évidemment, le général britannique n'est pas dupe. Et finalement, Menou est obligé de céder, c'est-à-dire tous ces objets archéologiques, y compris la pierre. Il réécrit d'ailleurs « Elle était ma propriété », ce qui est complètement faux. Mais vous la voulez, monsieur le général, vous l'aurez parce que vous êtes le plus fort. Tout simplement, la question de toute façon ne se posait pas. Deuxième chose, les Britanniques cherchent à obtenir toutes les notes, les dessins, les portefeuilles des savants ici. Et là, ils ne vont pas les avoir. Les savants vont véritablement... Se rebeller contre les Britanniques. Ils envoient une déclaration dans laquelle ils indiquent « Vous nous enlèverez nos collections, nos dessins, nos plans, nos copies de hiéroglyphes, mais qui vous donnera la clé de tout cela ? Ce sont des ébauches que nos impressions personnelles, nos observations, nos souvenirs doivent compléter. Sans nous, ces matériaux sont une langue morte à laquelle vous n'entendrez rien, ni vous, ni nos savants, ni vos savants. » Plutôt que de laisser accomplir cette spoliation inique et vandale, nous la disperserons au milieu des sables libyques ou nous la jetterons dans la mer. Puis nous protesterons en face de l'Europe et nous dirons par quelle violence nous avons été réduits à détruire tant de tensions. Et le général britannique insiste, veut s'en emparer. Les savants répondent « Non, 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 nous n'obéirons pas. Votre armée n'entre que dans 2 jours dans la place. Eh bien, d'ici là, le sacrifice sera consommé. Vous disposerez ensuite de nos personnes comme bon vous semblera. Non, vous dis-je, il ne sera pas dit qu'un pareil sacrifice ait pu s'accomplir. Nous brûlerons nous-mêmes nos richesses. C'est à de la célébrité que vous visez. Eh bien, comptez sur les souvenirs de l'histoire. Vous aurez aussi brûlé une bibliothèque dans Alexandrie. » Et c'est devant cette très très forte détermination des savants que le général britannique finit par céder. C'est-à-dire, d'accord, tout ce qui est scientifique, les savants pourront repartir avec, sur des vaisseaux britanniques, bien sûr, mais c'est pas le British Museum n'obtiendra que la pierre de Rosette, quelques magnifiques sculptures aussi, effectivement. Alors, avec tout ce matériel scientifique collecté, eh bien, la question se pose de Ce que l'on peut en faire. Alors, les savants rentrent après 1801 en Égypte. Ceux qui sont partis avec Bonaparte ont déjà commencé à publier. Le premier d'entre eux, c'est évidemment Vivant Denon, avec un ouvrage qui est un best-seller déjà en Europe. Il est publié avant même que les savants, que l'armée d'Égypte revienne en Égypte. Il a un peu d'avance sur les autres, mais c'est vrai qu'il y a un succès considérable. Dès le début, les Français, quand ils reviennent en France, se disent, en fait, il ne faut pas disperser ça. Il ne faut pas que chaque savant publie ses notes. Il faut que tout soit publié dans un seul et même ouvrage, qui soit publié par l'État, par la République. Assez vite, le Bonaparte lui-même en a tout à fait conscience, parce que il a cette idée qui est très simple. Ok, il a perdu militairement l'Égypte, qui est une défaite, on est bien d'accord, mais est-ce que le travail des savants pourrait pas transformer cette défaite militaire en victoire littéraire, par exemple? C'est ça l'idée. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une commission sur l'Égypte, ici, la commission des savants, qu'on va confier à plusieurs savants. Alors, celui qui va véritablement être le maître d'œuvre de cette commission, c'est l'ingénieur géographe Jomard. Il était parti très très jeune en 1798. Il est à la tête de la commission des arts et des sciences dès 1804-1805. Et puis, comme au début on pensait que ça allait prendre 2-3 ans, tout ce travail-là, comme ça a pris 25 ans, il en est encore à la tête au moment de la publication du dernier tome aussi. Donc Bonaparte en 1802 signe l'arrêté fondateur de ce qui va devenir la description de l'Égypte, bien sûr. Et ici, on voit très clairement la tutelle politique sur la science, puisque tout ce travail sera fait aux frais de l'État, bien sûr, avec une dépense considérable. On ne fera aucune économie. L'idée, ça doit servir le prestige de la France. Et si ça peut servir le prestige de Bonaparte, c'est encore mieux. Bien sûr. Donc au final, on va avoir 43 auteurs. C'est peu peut-être par rapport aux 165-167 savants, mais ils vont livrer 157 mémoires. Jomard, le maître d'œuvre, à lui seul va en livrer 26 mémoires ici. Et on va travailler sur à peu près tout, sur toutes ces, tous les sujets que l'on a traités. Aussi. Ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, on souhaite illustrer cette publication, cette description de l'Égypte par des planches magnifiques aussi. Et on va embaucher une armée de graveurs, les meilleurs graveurs, pour illustrer, réaliser tout ceci. Quand je dis qu'on va employer beaucoup, beaucoup de graveurs, il faut vous dire que chaque planche a nécessité entre 2 et 6 mois de travail. Quand vous savez qu'il y a près de 900 planches, vous imaginez le temps de travail et le nombre de personnes qui ont travaillé. Le prix n'est pas raisonnable du tout. Pour dessiner un simple animal sur la description de l'Égypte, ça coûte 3000 francs. Je vous rappelle qu'à l'époque, un ouvrier, le salaire d'un ouvrier à Paris, c'est 1 franc par jour. Donc 3000 francs, c'est quelque chose qui est absolument gigantesque. Les graveurs n'arrivent pas, pour aller un peu plus vite dans le travail, Comté, qui a fait partie de l'expédition, va inventer une machine à dessiner des lignes, pour tracer les lignes du ciel ici. C'est assez extraordinaire, ça va lui permettre de réaliser ces lignes en 2 à 3 jours, au lieu de passer plusieurs mois également. On a inventé les formats les plus grands pour ces planches. On ne voulait pas que ce soit le format d'un ouvrage. On veut se distinguer de tout ce qui existe auparavant. Donc, il y a déjà des grands formats qui existent, et on va en créer certains spécifiquement. Il n'y avait pas de cuve assez grande pour faire des planches de papier aussi grands. Et on va donner des noms qui évoquent cette expédition d'Égypte. Donc, on va créer le format aigle, qui s'appelle aussi le format moyen Égypte. C'est encore petit, c'est simplement 1 mètre de long sur 70 cm. On va inventer le format grand Égypte, et puis on va même inventer le format éléphant, 1 m35 sur 70 cm. Voilà, c'est pour ce format qu'on crée des nouvelles cuves ici. On décide en 1809 de fixer les modalités d'impression. La description sera imprimée à 1000 exemplaires, dont 800 sur le papier le plus fin et 200 sur vélin, ici. On va la diviser en plusieurs ouvrages, plusieurs parties. Une partie antiquité, histoire naturelle, une partie état moderne. Et puis, il y aura des planches, donc en tout 837. Alors, les 837, c'est les planches indépendantes, mais dans les mémoires, vous avez aussi des illustrations, bien évidemment. En tout, il y a plus de 8000 pages de texte. C'est quelque chose d'assez conséquent ici. On va y rajouter un atlas parce que nos ingénieurs géographes ont cartographié toutes les parties de l'Égypte et un atlas d'une précision extraordinaire qu'on va doter d'un index en français et en arabe. Quand on compare la carte de l'Égypte du géographe du roi Louis XV dans les années 1760 avec les cartes, parce que c'est un livre entier avec des cartes différentes, Il n'y a aucune différence, c'est le jour et la nuit entre les deux. Vous avez une précision gigantesque et les historiens aujourd'hui utilisent encore beaucoup ces cartes, notamment pour voir l'évolution de l'Égypte entre 1799 et aujourd'hui, par exemple. C'est quelque chose d'absolument magnifique. Alors, tout ceci est sans doute magnifique, impressionnant, etc., mais ça prend du temps, et qui dit du temps, ça coûte cher, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui paye chaque mois. Il s'était engagé pour 2-3 ans, au final, c'est plus d'une vingtaine d'années que la description de l'Égypte va mettre à être publié ici. Voilà. C'est long aussi parce que Bonaparte y met du sien, c'est-à-dire qu'il surveille l'évolution de la description de l'Égypte, et puis il va même jusqu'à corriger la préface. La préface, elle a été écrite par le mathématicien Fourier, qui était présent aussi, préfet de l'Isère ensuite, donc un proche de Bonaparte. Elle est à la gloire de Bonaparte, évidemment, cette préface. Sans lui, rien n'aurait été possible, c'est ce qu'on indique dedans. Mais à un moment, alors, elle reste longtemps sur le bureau de Bonaparte. À un moment, on sait que le ministre de l'Intérieur a essayé de reprendre le document, parce qu'il fallait bien le publier. Et là, le ministre indique que Bonaparte a mis la main dessus, façon de dire, non, ça reste pour l'instant sur mon bureau, j'ai pas encore lu. Ici, ça c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Donc il y a un lien qui est totalement évident entre les deux. On va finir par proposer à la vente cet ouvrage. Alors le coût selon si vous avez une version un peu plus onéreuse ou si vous avez des planches en couleur, par exemple, ou des planches en noir et blanc, parce qu'un certain nombre de planches sont en couleur et les couleurs sont faites à la main, bien sûr, sont passées à la main. Donc c'est entre 3000 et 5000 francs l'exemplaire ici. Autrement dit, personne ne peut se l'offrir, et d'ailleurs personne ne se l'offrira. Tous les exemplaires seront distribués, mais pas vendus. Enfin, sur les 1000 exemplaires, je crois qu'on a, il y en a 90 qui ont dû être vendus en 50 ans, ce qui n'est pas forcément très très rentable. C'est un gouffre financier total. Ça a coûté pendant les 25 ans 4 millions de francs. pour 90 exemplaires vendus, c'est peu. Aussi. Mais au final, entre 1810 et 1826, tous les tomes vont paraître. Et cette œuvre, eh ben, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et sans aucun précédent. Première chose, c'est la première page, le frontispice, qui est une œuvre d'art à lui-même. Alors voilà, c'est un petit peu dommage parce que ici, on ne peut pas le voir. Alors, je peux essayer de le décrire, mais au centre, vous avez toute la vallée du Nil avec un certain nombre de monuments qui sont représentés. On a représenté, par exemple, la pierre de Rosette. Elle est un petit peu cachée, mais on la voit, même si elle est désormais, à l'époque, comme toujours, au British Museum, bien sûr. On a représenté d'autres monuments, colonne de Pompée, par exemple, les obélisques aussi, qu'on n'a pas rapportés, encore en Égypte, ici. Voilà, et on les voit sur la vallée du Nil. Et tout autour, eh ben, en fait, c'est un hymne à la gloire de Bonaparte, tout simplement. On voit un général nu sur un char tiré par quatre chevaux. Ici, c'est le général Bonaparte qui est à la gloire, évidemment, enfin, qui mène la bataille. Ça va de soi. On trouve à côté des... on voit très bien, on aurait pu le voir sur les illustrations, une sculpture très célèbre qui était au Vatican, que Bonaparte a ramené à l'époque en France, qu'après on ramènera en Italie, bien sûr. On voit le fleuve qui est personnifié, qui est allongé, avec des petits personnages tout autour qui évoquent la prospérité. Et bien, c'est représenté sur la description de l'Égypte. Quand on met les deux, on le voit, enfin, dans ce frontispice. Le char de Bonaparte, c'est rien d'autre que le quadrige de Venise, vous savez, qui à l'époque est à Paris, puisqu'on s'est servi avant de le rendre, après l'époque napoléonienne, bien sûr. Bref, c'est une véritable frise allégorique, où on voit Bonaparte qui écrase les Mamelouks, on voit bien sûr les pyramides. Bonaparte, c'est Apollon, ni plus ni moins, ici, mais quand elle est publiée, il est empereur, donc ça tombe bien. Aussi. J'ai dit que la préface était à la gloire de Bonaparte, c'est vrai. Après, tout de même, n'oubliez pas une chose, c'est que le premier tome, le frontispice, est certes publié en 1810, mais la plupart des tomes sont publiés entre 1814 et 1826, autrement dit à l'époque de la Restauration. Et à l'époque de la Restauration, dans les tomes suivants, on ne parlera plus de Bonaparte. Alors, on n'a pas réimprimé une nouvelle version sur le frontispice, mais ensuite, on oublie tout. Pour les tomes suivants, ça reste quelque chose de scientifique. Alors, pourquoi est-ce que ces documents sont scientifiquement très intéressants et importants ? D'abord, c'est parce qu'ils sont d'une précision absolument gigantesque. Honnêtement, il y avait une illustration, on voyait le zodiaque de Dendera qui a été dessiné par deux ingénieurs, deux très jeunes ingénieurs. Ici, c'est fait à quelques mètres de hauteur, ils sont en bas, et c'est le plafond, c'est fait dans une pièce, donc c'est à l'obscurité, ils le font à la lumière des bougies, il fait très très chaud, c'est suffocant, ils sont l'été. Et bien, quand vous voyez une photo et une gravure, vous ne voyez aucune différence entre les deux. J'avais une autre planche où on voit les géographes ont dessiné les pyramides, le plateau de Gizeh avec les différentes pyramides. Et bien en fait, si vous voyez une photo aérienne en noir et blanc, vous mettez les deux l'une à côté de l'autre, c'est les mêmes aussi. La précision scientifique est gigantesque ici pour les dessinateurs. Ici. Après, tout ce qui est hiéroglyphes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que les dessinateurs ne connaissent pas les hiéroglyphes et donc ils dessinent, ils font beaucoup d'erreurs. Souvent, ils n'ont pas le temps et donc quand ils n'ont pas le temps, ils dessinent des colonnes et puis le soir ou en France, quand ils reviennent, et ben, ils vont dessiner des hiéroglyphes. Ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'erreurs. C'est beaucoup plus précis que Denon, parce que Denon, lui, il n'a même pas dessiné des hiéroglyphes, il a dessiné des traits pour mettre à la place, il n'a pas le temps du tout, encore moins que les autres. Mais ça ne va pas. Du point de vue, c'est assez étonnant, mais du point de vue égyptologique, c'est pas très utile. Ce qui est utile pour les égyptologues, c'est des temples qui ont été dessinés et qui ont été détruits au XIXe siècle. Et là, c'est la seule trace que l'on a parfois de ces temples. Mais les relevés hiéroglyphiques, Champollion lui-même a écrit, quand il est allé en Égypte, il faudrait fouetter sur la place publique la commission d'Égypte qui a osé publier des croquis si informes de ces grandes et belles compositions. Aussi. Quant aux hiéroglyphes, la planche sur les hiéroglyphes, il s'agissait d'essayer d'expliquer, elle est publiée en 1821. C'est une planche où tous les hiéroglyphes sont présentés sous un tableau, il y en a des des dizaines, sans doute des centaines sur ce tableau-là, qui sont mis complètement au hasard. Et l'année suivante, Champollion explique comment on lit les hiéroglyphes. L'auteur de cette planche et de ce mémoire, en fait, ne pouvait pas. C'est complètement dépassé quand c'est publié du point de vue hiéroglyphique. Bon, c'est pas grave non plus, hein, ça reste quand même quelque chose d'excellent. Vous trouvez donc des dizaines et des dizaines de planches sur les monuments anciens. Parfois, vous voyez, les dessinateurs se sont amusés à mettre quelques Égyptiens anciens, quelques prêtres dans le temple aussi, pour faire un petit peu plus exotique, peut-être. Parfois, on voit aussi, ce sont des soldats français. Alors, il y a cette planche qui est très célèbre sur la Grande Pyramide. Alors, la planche est gigantesque aussi. Quand vous la regardez comme ça, vous ne voyez rien. Mais alors, si vous zoomez, mais il faut zoomer de très très près, vous voyez les soldats français qui grimpent sur les marches de la pyramide, puis ils en voyaient trois tout en haut. Mais il faut vraiment avoir une grosse loupe. Mais c'est assez impressionnant de voir jusqu'où est allé se nicher le détail ici. On ne montre pas la guerre, par contre, hein, dans cette description de l'Égypte. Bien sûr, on montre le pays tel qu'on le trouve aussi. Donc j'ai parlé déjà des erreurs des dessinateurs, hein, qui sont nombreux, mais il ne faut pas leur en vouloir. Il y a une partie aussi, il y a 5 tomes sur l'état moderne de l'Égypte. Donc on voit les paysages des villes de l'Égypte à cette époque. C'est intéressant. Ça ressemble un petit peu là à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert aussi, par certaines façons. Il y a une partie histoire naturelle, là encore 5 tomes. Et vous avez tous les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les insectes, les coquilles, en zoologie, la botanique, la minéralogie aussi. Ce sont des planches qui sont absolument magnifiques et qui se négocient aujourd'hui assez cher d'ailleurs sur le marché de l'occasion. Au total, une somme vraiment impressionnante, notamment pour la partie antiquité, mais qui peut parfois arriver trop tard. J'ai expliqué par exemple pour la découverte de Champollion, et qui rend caduques évidemment les interprétations proposées. C'est le géographe Jomard qui avait proposé l'interprétation sur les hiéroglyphes, enfin, la mauvaise interprétation sur les hiéroglyphes, et c'est ce qui vous explique que Jomard et Champollion, sans doute, ont entretenu de très très mauvaises relations ensuite, puisque Champollion disait le contraire de Jomard. Pour terminer, la diffusion de la description, vous avez bien compris que personne ne peut se l'acheter, on peut encore moins la mettre dans sa bibliothèque. Il faut un meuble spécifique, hein, pour la ranger, pour la protéger aussi. D'ailleurs, il y a des superbes meubles qui vont être réalisés au Sénat, à l'Assemblée nationale par exemple, d'autres de manière un petit peu plus décorative. Et puis, qu'est-ce qu'on va en faire de cette description? Eh bien, en fait, on va tout simplement l'offrir, on va l'offrir aux bibliothèques aussi. On commence dès 1815 à l'offrir, donc, avec Louis XVIII, à l'offrir aux bibliothèques. Et il y a plusieurs centaines d'exemplaires qui vont être offerts. Chalon aura le sien, en 1834. C'est un peu tardif, hein, c'est la 13e ville de Bourgogne-Franche-Comté à recevoir son exemplaire aussi, mais de cette manière, on peut consulter. En conclusion, je ne vous ai peut-être pas montré avec des planches, c'est vrai, mais j'espère vous avoir convaincu cette notion de défaite militaire et de victoire littéraire. C'est vraiment ce que les contemporains au XIXe siècle ont fait, c'est-à-dire qu'on va très vite oublier l'échec de l'expédition de Bonaparte, de l'expédition des soldats, et puis dans toutes les publications qu'on va écrire, à chaque fois, c'est l'honneur de la France que d'avoir publié cette description de l'Égypte. Ça fait partie de la grandeur du pays, de ses scientifiques, de ses savants. En fait, la description de l'Égypte, on nous dit que c'est un trophée qu'on a rapporté d'Égypte. Ah, peut-être parce qu'on n'a rien pu rapporter d'autre, je ne sais pas. Ici, on parle de... un égyptologue écrit « Beaucoup de personnes pourront placer dans leur bibliothèque... » pas sûr, mais enfin, un véritable monument national qui retrace une de nos plus honorables conquêtes et les souvenirs de tant de gloires acquises et de tant de peines souffertes par des Français. Elle est là, la vraie victoire de Bonaparte. C'est pas la conquête de l'Égypte qu'il a perdue très vite. La vraie victoire de Bonaparte, eh ben, c'est de nous avoir laissé cette œuvre unique, sans équivalent, et qu'on consulte aujourd'hui. Et je vous engage à aller à Chalon ou aller ailleurs, à regarder sur Internet. Vous verrez mieux les planches qu'aujourd'hui. J'en suis vraiment désolé pour ce souci ici également. Voilà.
Merci Monsieur Gadi. Donc oui. Je pense que on peut le remercier et l'applaudir encore parce que sans aucune image, oui. Il nous a quand même emmené très loin. On le remercie, c'était très très bien.
On va voir ça.
Est-ce que quelqu'un aurait des questions à lui poser, puisque nous avons la chance de l'avoir parmi nous encore, par rapport à Denon, par rapport à l'expédition? Oui.
Attendez, je vais vous l'enregistrer, alors, comme ça peut-être.
Bonjour, monsieur. Sur les 50 000 personnes qui sont parties, combien sont revenues? Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'épidémies à ce moment-là.
Ah oui, bah les soldats qui sont morts de la peste déjà en Syrie.
Combien sont rentrés sur Paris?
Alors, le nombre exact, je suis désolé, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est peu, c'est-à-dire à peu près un tiers ici. Les savants, il y a un certain nombre de savants qui sont morts. Quelques-uns, il y en a deux ou trois qui sont morts au moment de la révolte du Caire, par exemple, qui ont été massacrés dans une maison. C'est vrai aussi. Le pourcentage de retour des savants est beaucoup plus important que le pourcentage de retour des soldats. Ils ont été plus protégés, ils étaient moins nombreux aussi, et peut-être qu'on veillait un peu mieux sur eux que les soldats aussi, effectivement. Mais le nombre exact, à peu près un tiers, peut-être. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, encore merci.
Et désolé pour... Merci à vous. Merci de votre compréhension.